C'est pas facile ces temps-ci en Alberta, d'un point de vue économique. Et vous savez, il y a quelques semaines, j'avais fait une entrevue avec Jean-Sébastien Pilote, l'auteur du blog Jeune retraité, et il nous donnait ses trucs pour devenir, je sais pas si c'est millionnaire, mais en tout cas pour atteindre la liberté financière à 40 ans. Eh bien, le célèbre chroniqueur financier Pierre-Yves McSween, lui aussi a sorti un livre dernièrement. Ça s'appelle Liberté 45. Donc, comment être libre financièrement à 45 ans? Et pourquoi cette différence de 5 ans? Bien, je l'ai avec moi. Bonjour, Pierre-Yves McSween.
Bonjour.
Alors, Pierre-Yves McSween, pourquoi la liberté financière à 45 ans?
Ce n'est pas une retraite, hein, c'est une liberté. C'est-à-dire que la liberté, elle est relative pour chacun. Donc, dans le monde fiscal dans lequel on vit, il y a un apogée, à un moment donné, de valeur marchande de votre actif. C'est-à-dire, quand vous êtes jeune, vous cumulez et on demandait, on doit amortir. Et j'ai calculé que fiscalement, dans une vie active, entre 45 et 46 ans, tu arrives à un moment où, contrairement à la pensée populaire qu'il faut absolument piler des réels jusqu'à 65 ans, il faudrait peut-être justement avoir atteint un certain apogée beaucoup plus tôt et commencer à amortir fiscalement cet actif cumulé-là au lieu d'arriver à 65 ans, 66 ans et se payer un gros salaire et être fortement imposé. C'est peut-être atteindre l'apogée plus vite et réduire son train de vie plus tôt. Alors, c'est vraiment une question de liberté 45, je veux dire, à 45 ans, en soi, pour être libre. C'est pas à 65 ans avec un demi-cancer que c'est le temps de commencer à se dire, je vais profiter de la vie non plus.
C'est sûr, dis de même en plus. Donc, toi, tu as une approche différente de la mentalité FIRE, qui est le Financial Independence Retire Early. Toi, tu appliques trois règles. Quelles sont ces trois règles?
La première règle, c'est de créer une valeur marchande parce que on a beau parler d'épargne, on a beau parler d'investissement. Si vous ne créez pas de valeur marchande, de valeur distinctive, vous allez être victime dans le système dans lequel on vit. Alors, on se crée une valeur rapidement qui nous permet d'investir, d'épargner et donc d'investir. Si on ne fait pas ces trois règles-là, ça ne fonctionne pas. Et le FIRE, le problème avec le FIRE de ma vision à moi, c'est que c'est beaucoup trop de risques concentrés. C'est-à-dire que si vous prenez votre retraite à 40 ans, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'arrivera pas un crash important, qu'il va y avoir
Ou
une
une
dévaluation
pandémie.
de votre valeur, une pandémie, que votre actif ne va pas s'effondrer, que vous allez être obligé de recommencer à travailler et donc vous allez avoir, si vous prenez votre retraite de façon prématurée, vous allez avoir détruit votre valeur marchande. Et donc, moi, je préfère dire, soyez libre pour dire non à 45 ans, c'est-à-dire d'avoir le choix de faire ce que vous voulez. Mais c'est un extrêmement grand risque financier de dire, je vais cumuler de l'argent super rapidement, puis assez d'argent pour vivre pendant encore 40, 45 ans. Je trouve que c'est théoriquement beau, mais dans la pratique, l'inflation, le risque conjugal aussi. Parce que c'est bien beau vendre une retraite à 40 ans à deux. Mais si à 45 ans, la personne avec qui vous êtes décide que vous n'êtes pas la bonne personne pour les 30 prochaines années, toute votre économie d'échelle de votre modèle s'effondre. Et donc, ça prend beaucoup de confiance en l'avenir pour dire, je prends ma retraite à un âge aussi prématuré.
Moi, j'ai trouvé ton livre très intéressant. J'ai lu ton premier aussi. Et tu donnes, dans le fond, des trucs pour économiser un peu, comme dans En as-tu besoin? Mais je voulais débattre de quelque chose avec toi.
Vas-y.
Parce que tu focalises beaucoup sur le fait que c'est important dans la vingtaine d'économiser parce que c'est le gros morceau d'une vie d'une personne
Tout
qui
à
veut
fait.
économiser entre 20 et 35 ans. Et tu parles, ah, c'est pas nécessairement le temps de faire des voyages, même si les voyages forment la jeunesse, tatata. Mais moi, je vais te parler un peu de ma vie personnelle. Moi, j'ai beaucoup voyagé entre 20 et 25 ans et c'est grâce au voyage que j'ai appris le minimalisme, que j'ai appris à vivre avec moins. Parce que surtout une femme, là, quand on a juste un backpack, puis c'est notre maison, puis on doit toujours comme porter le même linge, puis on doit minimiser tout notre stock le plus possible, c'est là qu'on apprend qu'on n'a pas besoin de matériel pour être heureux. Et moi, ça m'a suivi toute ma vie par la suite et c'est comme ça que je suis devenue économe. Est-ce que justement les expériences personnelles ne pourraient pas former les prochains fiscalistes de notre monde, je sais pas.
Moi, c'est parce que c'est simplement le voyage est une image. C'est-à-dire, si vous mettez toute votre marge de manœuvre dans la dépense, il y a un concept. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui voyagent beaucoup entre 20 et 30 ans, puis qui vivent d'une journée à l'autre, puis que la vie est belle, même si on est dans un certain minimalisme, la valeur marchande qu'on développe est amputée souvent. Parce que le monde dans lequel on vit développe une valeur marchande, et oui, un salaire, une valeur, un prix, en fonction de ce qu'on crée comme valeur. Et donc, si par exemple, moi j'avais été pendant 4-5 ans avec un backpack à voyager, mais je n'aurais pas la valeur marchande que j'ai présentement, je n'aurais pas bâti cette valeur-là. Et donc, mon actif net se retrouvait fortement amputé et la valeur à laquelle je peux vendre mes services aussi. Donc, si vous dites « j'ai vécu de minimalisme, je n'ai pas une scène à 26 ans ou 27 ans, j'ai aucun actif cumulé », il se peut qu'à 40 ans, votre alter ego ait 400 000 d'actifs nets et vous 100 000, et que votre alter ego arrête de travailler pendant que vous vous battez pour gagner, pour épargner 5-10 000 par année, mais lui ou elle aura ça en rendement sur ses placements. Et donc, vous le rattraperez ou vous ne la rattraperez jamais. Et votre expérience de 5 ans va vous coûter peut-être 15-20 ans de privation, alors que l'autre personne ne vivra pas ça. Alors, je le vois personnellement, je le vois dans les gens qui me rencontrent, je vois les erreurs, je vois les conséquences. À 40 ans, vous avez des fois des centaines de milliers de dollars d'écart de valeur d'actifs. En fait, ça arrive souvent. Et mettez 400 000 à 10 % une année, vous venez de faire 40 000 sans travailler. La personne à côté commence à épargner, épargne 20 000, disons, le quart de son salaire brut. Mais ça fait un rendement sur 20 000 qu'ils auront en patrimoine. Mais 10 %, ça donne 2 000. Et donc, cet écart-là va se creuser telle une courbe exponentielle. Et puis, la personne qui aura profité beaucoup de la vie entre 20 et 30 va peut-être payer le prix statistiquement fortement entre 30, 40, 50, 60. Et ce n'est pas pour la retraite, c'est pour maintenant. Alors, c'est un choix, mais le choix est fort. Et ce que j'exprime dans le livre, c'est la valeur de l'argent dans le temps, c'est une courbe exponentielle. Si vous décidez de ne pas épargner jeune et pas investir jeune, vous allez fortement payer le prix, c'est indubitable.
Mm-hmm. Et tu parles beaucoup d'investissement et de façon d'investir aussi dans ce livre-là. Dans l'après-pandémie, dans le nouveau monde qu'on va vivre à la suite de tout ce qui s'est passé, parce que c'est jamais vu, hein? Est-ce que ça vaut quand même la peine d'investir pour le futur dans le sens que l'année prochaine, est-ce qu'on va vivre un méga crash économique parce que justement, tout va faire boule de neige et c'est là que tout va péter? Comment tu vois ça?
Bien, je ne sais pas pour vous, mais si vous avez regardé les indices boursiers, ils ont fortement planté le 15, 16, 17, 18 mars. Mm-hmm. Et après ça, on a vécu la période boursière la plus payante depuis des années. Et donc, ceux qui ont sorti leur bille ou qui n'avaient pas d'investissement ont vu leur rendement baisser. Et ceux qui étaient dans la bourse ont monté. Donc, même si l'année prochaine, on perdait 30 % de rendement, c'est 30 % qu'on a peut-être fait cette année. Et donc, quand on investit à long terme, on n'a jamais ce questionnement-là dont vous parlez. La maison dans laquelle on vit peut baisser de 10-15 % de valeur. On l'a pareil. Les placements qui baissent de 10-15 % de valeur vont peut-être prendre 10 % l'année suivante. Et de dire qu'on ne va pas investir à cause du New Future, on a connu ça dans les années 80 à cause du New Future de la guerre nucléaire qu'on avait tant peur. Il y a le New Future environnemental et tout ça. Mais c'est très drôle de voir l'argumentation opposée de dire « Tant qu'à ça, je ne vais rien faire parce qu'on est perdu d'avance. » Ouais, mais si tu meurs pas. C'est comme le monde qui me dit ouais, mais je suis pas un salaire. Si tu pognes un cancer à 40 ans, je dis ouais, mais j'ai des enfants. Il faut que j'assure leur avenir. Puis si je pogne pas le cancer à 40 ans, puis je t'offre jusqu'à 80, 90, c'est long 40 ans de j'aurais du bain du dondu, tu sais. Alors, c'est un peu ça. C'est un choix. Mais 10 ans de votre vie par rapport à 60 ans, c'est un choix à faire, mais la jeunesse passe vite. La mienne est passée déjà. Et que j'aille fêter ou non, et que j'ai vécu la grande vie de voyage ou non, au bout du compte, à l'âge où je suis rendu, les impacts sont monumentaux si je n'ai rien fait au niveau de l'épargne.
Mm-hmm. Dans quoi devrait-on investir, selon toi, dans les prochaines années?
Moi, c'est toujours la diversification. Je le dis dans le livre, les quatre éléments de l'investissement. Toujours avoir un peu d'immobilier, se couvrir contre l'inflation, puis avoir une place où se loger. Avoir des investissements boursiers, parce que ce sont des investissements passifs dans lesquels on ne doit pas gérer... le day-to-day, contrairement à l'immobilier quand on a des locataires. Avoir des investissements peut-être un peu plus sécuritaires pour avoir du liquide en cas de besoin. Exemple, changer la toiture de la maison, payer une malchance. Et donc, et ça prend du feu, c'est-à-dire que ça prend du risque. Fait que si vous ne prenez pas de risque et vous ne battez pas l'inflation, c'est comme si vous investissiez sans gagner de valeur dans le temps. Alors, ça prend de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Donc, ça prend un mélange de tout. Mais quel secteur? Moi, je suis diversifié parce que je ne crois pas à la concentration du risque. C'est sûr que si vous mettez 100 % votre argent dans le techno, puis pendant deux ans, vous faites beaucoup d'argent, tant mieux pour vous. Mais les courbes de cette année ont montré que quand un secteur s'effondre, l'autre monte. Alors, quand vous êtes diversifié, vous êtes moins exposé à la volatilité des marchés. Bien sûr, vous faites peut-être des moins gros rendements au total qu'avoir tout mis votre argent dans un titre qui a explosé, mais vous dormez le soir.
Mm-hmm. Très intéressant, on prend des notes. Pierre-Yves McSween, chroniqueur financier, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée. Liberté 45, disponible au www.leslibraires.ca.